Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Aujourd'hui, l'histoire très touchante d'une maman dont le fils Thomas est atteint d'une maladie génétique rare, l'une des formes de ce que la médecine appelle l'ostéogénèse imparfaite et que dans le langage courant, on appelle nous la maladie des os de verre. Elle raconte son combat d'abord pour obtenir un diagnostic et puis pour lui permettre de faire une scolarité normale au milieu des autres jusqu'à son entrée à Normal Sup en mathématiques où il est toujours aujourd'hui. Elle raconte tout ça dans un livre paru aux éditions du CERF il y a quelques semaines, Mystère de la fragilité. Elle s'appelle Isabelle Mordant et elle est en face de moi. Bonjour Isabelle.
Bonjour Christophe.
Vous racontez 20 années de votre vie dans ce livre, c'est beaucoup. J'ai tracé mon chemin là-dedans pour tirer ce récit que j'ai écrit avec Simon Veil, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'est étrange, hein, mais j'ai vécu ma grossesse dans l'angoisse. Thomas est né le jour de mes 25 ans. Évidemment, pour Paul et moi, c'était le plus beau bébé du monde. Mais quand la sage-femme à la maternité m'a remis son carnet de santé, je sais pas, une inquiétude sourde m'a envahi. Le pressentiment d'un malheur imminent. Et puis l'impression d'un poids sur mes épaules. Et puis assez vite, Thomas se met à pleurer. Pleurer, pleurer. On me dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il lise le journal? Je sais qu'un bébé pleure, mais parce qu'il a faim, parce qu'il faut le changer, parce qu'il a besoin de caresses. Mais Thomas, rien n'y fait. J'en parle au médecin, il ne m'écoute pas. Pour le docteur et pour les grands-parents, tout va bien. Il fait ses dents. Vers ses 6 mois, quand je le prends dans son lit ou pour le laver, il hurle. Et moi, j'ai l'impression qu'il a mal au cou. Je vais voir 3 fois le pédiatre en 3 semaines. Je le harcèle. Bon, eh bien, si vous y tenez, je vais lui prescrire une radio. On ne voit rien sur la radio. Il fallait s'y attendre, hein. Les os d'un bébé de 6 mois sont si peu denses qu'en général, ils ne sont pas lisibles. Je le harcèle encore et j'obtiens une IRM et surtout... Je vous ai obtenu un rendez-vous avec le chef de service de pédiatrie au CHU. C'est une sommité. Vous avez beaucoup de chance de pouvoir le consulter aussi vite. Quand j'entre dans son bureau avec Thomas dans mes bras, le professeur ne m'adresse pas un mot, pas même un regard. Il pose Thomas sur la table d'examen et il se met à lui malaxer la nuque. Thomas hurle. D'une certaine manière, ça me rassure. Comme ça, il va voir que j'ai de bonnes raisons de m'inquiéter. Il ne va pas me renvoyer chez moi comme le pédiatre, sans explication. Les infirmières le rhabillent, elles me le rendent. Et pendant ce temps-là, sur un grand panneau lumineux, le professeur examine les images de l'IRM. Il est entouré d'étudiants.
Vous voyez là, c'est assez net, hein. Fracture de la vertèbre cervicale.
Quand j'entends ça, des larmes coulent sans même que j'en ai conscience. Et dans la minute qui suit, une infirmière me prend Thomas, l'installe sur un brancard et le met en traction. C'est-à-dire qu'il est attaché sur son lit, le cou tiré par un système de poulies et de poids.
Le but, madame, est de permettre à la fracture de se consolider, sans complication, d'accord? Il va rester comme ça quelques semaines.
Une vertèbre ne casse pas comme ça. Il n'est jamais tombé. Je l'ai toujours manipulé avec d'infinies précautions. Ça fait rire les gens. Je ne l'ai jamais confié à personne d'autre. Est-ce que ça serait pas la maladie des os de verre? L'ostéogénèse imparfaite. J'en ai entendu parler il y a quelques mois, à la mort du pianiste Michel Petrucciani. Vous savez, le pianiste de jazz. Il est atteint de cette maladie. Alors, je pose la question au médecin. Vous ne pensez pas que Thomas a peut-être la maladie des os de verre?
Non, non, non. Les bébés qui souffrent de cette pathologie sont souvent chétifs. Il n'est pas chétif. Et puis généralement, les premières fractures ont lieu au niveau des hanches, des bras ou des jambes. Il ne présente aucune des caractéristiques de cette maladie, aucune.
Bon, d'accord, puisqu'ils le disent.
Thomas reste comme ça sous traction cervicale au CHU pendant un mois et demi, dans une petite chambre vitrée où je n'ai même pas le droit de dormir avec lui, mais où je passe 14 heures par jour à lui tenir compagnie. Au bout d'un mois et demi. Bien, vous allez pouvoir rentrer chez vous avec Thomas. Il devra porter une Minerve et il faudrait que je vous revoie régulièrement. À quoi est-ce que vous attribuez sa fracture ? Une fragilité mécanique, du coup, due à une malformation osseuse locale.
D'accord. Mais dès notre retour à la maison, les incidents s'enchaînent. Un jour, il ne bouge plus un bras. La semaine suivante, c'est une jambe. Et donc, on se retrouve aux urgences, où le diagnostic est toujours le même, des micro-fractures. Et à chaque fois, on me le rend, en me disant de faire attention. Le manège se poursuit comme ça jusqu'à la veille de ses 1 an. À ce moment-là, je ne l'ai dit à personne, mais je suis enceinte. Je suis enceinte à nouveau. Thomas ne peut plus une fois de plus bouger un de ses bras. Je l'emmène aux urgences, le médecin de garde fait faire des radios, et il m'envoie directement dans le bureau du chef du service d'orthopédie, qui suit Thomas depuis le début. Il veut son avis. Et le voilà, son avis.
Mon avis ? Mon avis, madame, depuis le début, est que vous maltraitez votre enfant. Nous n'en avons pas la preuve et c'est au bénéfice du doute qu'on vous l'a rendu. Ça s'appelle le syndrome de Munchausen. Maltraiter un enfant dans le but d'attirer la compassion par le biais de la maladie de l'enfant. Vous vouliez savoir ce que je pense ? Vous le savez.
Ils ont décidé d'engager une procédure contre moi. Mon Thomas est hospitalisé sur le champ. Je n'ai plus aucun droit sur lui. Donc, ils me soupçonnent. Ils me soupçonnent depuis des mois. Et moi qui leur faisais confiance. On nous interroge, Paul et moi. Ensemble, puis séparément. On fouille dans l'intimité de notre couple. On nous humilie. Et moi, je suis enceinte. J'ai les premières nausées. Et vous savez ce que dit le médecin à ma mère ?
Je ne crois pas qu'elle soit vraiment enceinte. Elle dit qu'elle est enceinte pour nous apitoyer. Elle manipule tout le monde.
Ma mère lui jure que je suis enceinte. Et lui ?
Mais qu'est-ce qui lui a pris de faire un autre bébé ?
Ma mère me propose de contacter une de ses relations à Paris. Un grand médecin qui lui-même prend contact avec la spécialiste à l'hôpital Necker, la spécialiste des fragilités osseuses de l'enfant. C'est elle qui appelle le CHU en Normandie.
Dites-moi, cher confrère, j'ai de bonnes raisons de penser que Thomas Mordant, que vous avez dans votre service, pourrait souffrir d'une ostéogenèse imparfaite. Il faudrait que je le voie.
Et là, incroyable volte-face du professeur du CHU. On est dans le couloir, il est 9h du soir, ma mère est là, je me souviens. Et on le voit arriver, au bout du couloir, l'air embarrassé.
Bonsoir. Donc votre fils va être vu dans quelques jours à Necker à Paris, hein, par une consœur. En ce qui me concerne, je voulais vous dire que mon opinion est faite. Thomas a une ostéogenèse imparfaite, autrement dit la maladie des os de verre, c'est une maladie génétique et... D'ailleurs, dès lors, puisque vous êtes enceinte, je vous invite à consulter un généticien. Évidemment, nous renonçons à nos poursuites contre vous. Voilà. Vous pouvez rentrer chez vous avec votre fils jusqu'à ce rendez-vous à Paris. Bonne soirée, messieurs, dames.
Pour les excuses, on repassera. Nous voilà donc à l'hôpital Necker, à Paris, où la spécialiste, qui est aussi généticienne, pose enfin un diagnostic.
Bien. Je pense que votre bébé est atteint d'une ostéogenèse imparfaite, hein, communément appelée la maladie des os de verre.
sous une forme d'ailleurs assez atypique, ce qui a pu égarer mes confrères de Normandie. Après, je suis beaucoup d'enfants atteints de cette maladie. C'est étonnant, il ne leur ressemble pas. Il a plutôt bonne mine, ce qui est rarement le cas. Et donc, je ne suis pas forcément très inquiète pour lui. Il devrait pouvoir vivre assez normalement, marcher, aller à l'école. Bon, bien sûr, il faudra être un peu vigilant, mais pas trop non plus. Il faudrait pas trop le protéger, ça freinerait son développement. Au contraire, il faut qu'il bouge pour fortifier ses os et, en même temps, éviter qu'il se les casse, parce que qui dit fracture dit immobilisation, et les immobilisations augmentent la fragilité. Donc ça peut devenir une sorte de cercle vicieux, vous voyez.
C'est la première consultation qui compte dans la maladie de Thomas. On est reçu longuement. Une psychologue est présente. On répond avec délicatesse à toutes nos questions. On écoute notre souffrance.
Et tenez, voilà mon numéro de ligne directe. Vous m'appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'on va nous aider, mais qu'on ne sait pas grand-chose. En nous disant ça, qu'il aurait une vie normale, elle s'est trompée ou elle a voulu nous dissimuler volontairement la vérité? Je lui poserai la question un jour, quand Thomas aura développé la forme la plus sévère, jusqu'à devenir totalement dépendant. Elle m'a juré qu'elle s'est trompée, de toute bonne foi. Mais moi, je garde un doute. En tout cas, ça ne va pas arranger ma méfiance vis-à-vis des médecins. On rentre chez nous. Et c'est difficile. On doit d'abord trouver un kinésithérapeute compétent et disponible. J'en trouve une, Béatrice. Elle le verra 3 fois par semaine. Et ensuite, il faut organiser la prise en charge des fractures qui vont continuer au CHU, qui nous est toujours aussi hostile, parce que si le chef de service nous a disculpés, il l'a fait juste devant nous. Dans son service, il n'a rien dit. Son autorité, vous comprenez. Et donc tout le monde est resté fixé sur un diagnostic de maltraitance. Et donc on continue de me traiter en mère indigne. Au CHU, on m'a recommandé un psychomotricien. 45 euros la séance, non remboursée. Il veut le voir 2 fois par semaine, pour un jeune ménage. C'est un budget. Mais bon, d'accord.
Alors, est-ce que vous pouvez asseoir Thomas par terre, tenez là. Oui, vous pouvez prendre des coussins. Ok, très bien. Maintenant, je vais vous demander de sortir et de me laisser seul avec lui. Vous savez, quand un enfant de 1 an ne tient pas fermement assis, ça vient en général de difficultés de relation avec sa mère, hein.
Mais qu'est-ce que c'est que cet Olibrius? J'avale ma salive, je règle la séance. On ne reviendra pas. Vous savez ce que m'a dit un jour Béatrice, la kiné de Thomas? Les médecins du CHU l'ont contacté.
Ah oui? Et ils m'ont dit de le déshabiller à chaque visite. Et de chercher sur son corps des traces de coups. Ils m'ont dit ça, hein. Moi, je l'ai pas fait. C'est pas mon rôle. De toute façon, bon, depuis, ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils avaient eu tort et que c'était une ostéogénèse imparfaite.
Ils ont aussi appelé la gynécologue qui suit ma grossesse.
Ah oui, oui. Ils m'ont dit que vous aviez maltraité votre aîné, que vous alliez certainement vous inquiéter d'une fragilité osseuse concernant le bébé, et qu'il ne fallait pas vous croire. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Mais ils ont fait mieux que ça. Ils m'ont demandé de vous inciter à interrompre votre grossesse. Je les ai pas écoutés.
J'ai fait une échographie. Ça ne me donne aucune assurance que le bébé va bien, mais pas de certitude non plus qu'il va mal. Thomas a 18 mois maintenant. Il tient bien assis, il rampe à plat ventre, mais il ne marche pas à 4 pattes et il ne sait pas changer de position tout seul. Il tient sur ses jambes, mais il n'est pas prêt de marcher. Et puis, il a des douleurs dans le dos. J'ai peur d'une fracture. J'espère qu'il marchera avant son petit frère, mais c'est pas sûr. Son petit frère, nous l'avons appelé Pierre. J'ai 26 ans quand il vient au monde. Dans les ténèbres de cette époque de notre vie, c'est un rayon de soleil. Et il n'est pas malade. Thomas a a bientôt 3 ans. Il vient de subir une opération très lourde. On lui a installé un clou télescopique dans le fémur pour le consolider. Je le promène dans le couloir de l'hôpital dans mes bras. Et d'un coup, il crie
« Issue !»
Et là, il me montre le panneau vert qui indique « Issue de secours ». Il n'a que 3 ans et il connaît déjà l'alphabet. Je raconte ça au médecin.
« Ah mais vous savez, votre fils n'est définitivement pas comme tout le monde. Hein. »
À partir de ses 3 ans et demi, Thomas lit couramment. Ça n'est pas moi qui lui ai appris. Il a appris tout seul. Je me suis battu pour qu'il aille à l'école, avec les autres. Il n'en voulait pas, mais je n'ai pas lâché. J'ai obtenu une auxiliaire de vie scolaire 2 après-midi par semaine. Ils ont fini par dérouer. Thomas a maintenant 5 ans. Il est en grande section de maternelle. Aujourd'hui, il est rentré grognon de l'école. Sa maîtresse se plaint de lui.
Il est très distrait, hein? Et il n'écoute pas. Il regarde tout le temps par la fenêtre. Et puis entre nous, il est assez mal élevé, hein? Jamais merci, jamais s'il te plaît. Et enfin, il est un peu, comment dirais-je, paresseux.
Paresseux. Elle lui reproche de ne pas marcher à 5 ans. Un enfant qui, en ce moment, totalise 40 fractures. Il a 9 ans maintenant. Il est en CM1. Et on lui a trouvé une école vraiment bien. Un soir, il est dans son bain, je viens de le savonner.
Dis, maman, j'aime vraiment les nombres irrationnels.
Les nombres irrationnels? Mais qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est les nombres qu'on peut pas mettre sous la forme d'une fraction. Par exemple, pi, c'est un nombre irrationnel.
Quelque temps plus tard, la maîtresse me convoque.
Je ne sais pas ce que vous faites à Thomas à la maison, mais moi, je ne m'en sors plus. Vous savez ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé quand est-ce que j'allais aborder la géométrie non euclidienne. Qu'est-ce que je suis censé répondre?
Thomas a des capacités intellectuelles hors normes. Il s'intéresse à la musique, à l'histoire, à la géographie, à la littérature, au cinéma et aux mathématiques. À 9 ans, il saute des classes, il entre directement en 6e. De la 6e, il passe directement à la 4e et il se retrouve en première scientifique à 12 ans et demi. Mais cette année-là, l'une des broches qui maintient l'intérieur de l'os de son bras a bougé. On voit le clou qui sort sous la peau de son épaule. Il faut encore l'opérer. C'est au moins la 12e opération. Et lui, il est là sur son lit. Il révise son cours d'histoire. Sa scolarité n'est pas seulement un plaisir. C'est sa force. Thomas a maintenant 13 ans. Un matin, le téléphone sonne. C'est la généticienne de l'hôpital Necker.
Madame Mordant, j'ai une nouvelle pour vous. Le laboratoire qui garde en culture les cellules de Thomas depuis des années a identifié la mutation génétique qui provoque sa maladie. On la tient. Est-ce que vous pourriez me faire parvenir rapidement des prélèvements sanguins, donc de Thomas, de vous et de votre mari, qu'on confirme?
Je suis sonné. On s'était fait à l'idée de ne pas savoir exactement ce qu'il avait. On attend les résultats des mois. Et d'ailleurs, je ne suis plus si sûr d'avoir envie de savoir. Et puis, on se retrouve à l'hôpital Necker.
Alors, nous sommes arrivés à identifier le problème. Thomas, ce qu'on appelle une forme récessive de fragilité osseuse. Ce qui s'explique par le fait que vous êtes porteurs tous les deux parents, du gène défectueux. C'est très rare. Il n'y a dans le monde que quelques cas identiques au vôtre. Votre fils a hérité des 2 gènes anormaux de vous-même et de votre mari.
En pratique, ça ne change rien de savoir ça. Mais disons que ça clôt le chapitre jamais refermé des accusations portées contre nous, il y a 13 ans. Thomas a donc une maladie génétique rarissime. Et on ne peut pas savoir ce que la vie lui réserve. On ne peut pas avoir des projets à long terme. Alors, On savoure les petits bonheurs de chaque journée. Et c'est très bien comme ça. Thomas a 14 ans maintenant. Et il est en terminale. Il va passer son bac. Il est toujours aussi passionné par les mathématiques et il veut se lancer dans la recherche et l'enseignement. Commencer par maths sup, maths spé et tenter de rentrer en mathématiques à normal sup. 1500 candidats, 40 élèves sélectionnés chaque année. On me dit,
quand on est handicapé, il vaut mieux aller à la fac.
Mais je n'en démords pas. Je veux une classe prépa, même si je suis consciente que son état physique est de fait un très gros handicap. Depuis le CE2, il ne va à l'école que le matin, corseté dans son fauteuil. Et l'après-midi, il reste à la maison, il travaille allongé. Et puis il ne peut plus du tout écrire, même avec un clavier. Et les systèmes de reconnaissance vocale ne sont pas du tout adaptés aux mathématiques. Il va lui falloir un auxiliaire de vie scolaire avec un bon niveau en mathématiques. Ça n'est pas facile à trouver. Mais deux lycées sont prêts à se lancer dans l'aventure. Ça y est, les résultats du bac sont tombés. Mention très bien, à 14 ans et demi. Moyenne générale, 18,97 sur 20. Thomas est maintenant en classe préparatoire. Et ce soir, l'association des anciens élèves a organisé une rencontre avec un invité prestigieux, le mathématicien Cédric Villani, qui a obtenu il y a 4 ans la médaille Fields, le Nobel des mathématiciens. Thomas, bien sûr, rêve de le voir, de lui parler. Le président de l'association a arrangé le coup. Cédric Villani vient le voir à la maison. Il arrive avec son habituelle tenue excentrique, sa montre à gousset, sa lavalière, sa broche en forme d'araignée.
Alors Thomas, qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment?
On étudie la diagonalisation des matrices.
Ah, tu connais donc le théorème de Cayley-Hamilton? Moi je trouve qu'il est magnifique. Tout endomorphisme annule son polynôme caractéristique. Et puis celui-là, toute matrice symétrique est diagonalisable. Moi, je trouve ça formidable.
La conversation est un peu surréaliste, mais Thomas garde de cette rencontre un souvenir ébloui. Cédric Villani lui a envoyé des mails d'encouragement au moment des concours et un message de félicitations quand Thomas est rentré à Normal Sup. Il y est arrivé. C'est un exploit. À force de volonté et d'amour de la vie, il a détourné la route tracée pour lui par la nature et par la société. Il est maître de sa vie.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.